Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verduzier.
C'est parti.
Bienvenue dans cet épisode court consacré à un objet culturel. C'est un roman comme un secret que l'on se passe de main en main, comme L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante ou Le cœur des femmes de Martin Winkler. Cette semaine, on va parler d'un classique à redécouvrir car il est d'actualité. C'est Dans la forêt de Jean Egland. On en parle avec Pauline Verduzier qui fait son comeback.
She's back!
Coucou!
Hello! Je suis trop contente de te retrouver, de reprendre du service, surtout pour parler de ce livre magnifique que personnellement j'ai découvert pendant le confinement un peu par hasard et qui m'a vraiment aidée en fait à mieux vivre ce moment éprouvant. Et en plus, je trouve qu'il reste totalement d'actualité en période déconfinée. Et je voulais juste faire une petite précision avant de commencer parce qu'on me l'a déjà demandé, mais en fait, le livre dont on va vous parler n'a rien à voir avec le film du même nom de Gilles Marchand, avec Jérémy El Khaïm, on va vous parler de quelque chose d'autre.
Non, rien à voir, en effet.
Alors, de quoi ça parle, Clémentine ?
Oui, alors, c'est vrai qu'on a décidé de consacrer l'épisode du jour donc à ce roman d'anticipation post-apocalyptique qui a été écrit donc par une Américaine, donc Jean Egland, en 1996. Et effectivement, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? Je pense que si on résume le livre, ça nous donnera une petite idée de pourquoi on l'a exhumé de nos bibliothèques. En fait, c'est l'histoire de deux sœurs adolescentes, Eva et Nell. La première est une ballerine qui s'apprête à rentrer dans une prestigieuse formation de danse classique et la seconde prépare le concours de l'université de Harvard. Elles ont reçu une éducation très libre à la maison et elles vivent avec leur père qui est prof et leur mère qui est artisane et qui confectionne des tapisseries et qui se bat également contre un cancer. Et donc comme le nom du roman l'indique, leur maison se trouve dans une forêt reculée de la Californie. Et en fait, pour des raisons qui sont assez obscures dans le livre et qu'on perçoit assez confusément depuis donc cette forêt, les États-Unis sont en train de plonger dans le chaos au moment où le roman est écrit. Donc ça commence par des coupures de téléphone pendant quelques heures, puis pendant plusieurs jours, puis tout le temps. On comprend aussi qu'il y a eu des émeutes, des épidémies foudroyantes, que tous les services en fait ont peu à peu cessé de fonctionner, que les magasins et les stations essence ont été aussi vidés petit à petit, et les sœurs qui vont devenir orphelines vont devoir survivre alors que la nourriture va venir à manquer et qu'il n'y a plus du tout d'électricité. Voilà. Suspense total. On écoute l'autrice en parler.
And what the story is really about is these two very young women, teenagers, who are stranded alone in the Northern California forests. And it's about the decisions they make and how they decide to interact with the forest and what they learn about the natural world as they are challenged by the situation that they're in.
Donc Jean Egland va faire le récit minutieux de cette lutte du quotidien, écrit comme un journal intime tenu par Nell, qui va alterner en fait avec des flashbacks dans la vie d'avant, quand les sœurs sortaient le soir avec leurs amies, quand leur mère était encore vivante, quand les ordinateurs marchaient et qu'on pouvait encore danser sur de la musique.
C'était le bon vieux temps.
C'est ça. Et maintenant que tout a disparu, que tout ça a disparu, Eva répète ses chorégraphies dans son studio avec un métronome pour seul fond sonore. Et Nell apprend chaque entrée de l'encyclopédie parce qu'elle a déjà lu tous les livres de la maison. Et parfois, on va avoir des incursions du monde extérieur qui vont se produire dans ce confinement extrême. Et les sœurs vont être confrontées à la violence, notamment à la violence masculine. Le livre raconte aussi comment, au fil du temps, elles apprennent toutes les deux à se détacher de la vie matérielle, à cultiver un potager, aussi à connaître les ressources de la forêt qui les entoure, donc les vertus des plantes, les champignons et les baies comestibles. Tout ça grâce à un livre trouvé dans l'atelier de leur mère qui va un peu les sauver. Et à tout cela se superposent les thèmes de l'apprentissage du désir, les émois adolescents, la question du trauma, de la résilience, le deuil, l'anxiété, la maternité. Enfin, c'est très très riche, comme vous pouvez le voir. Donc on va vous lire un extrait.
Le déficit du gouvernement avait fait boule de neige pendant plus d'un quart de siècle. Nous connaissions une crise du pétrole depuis au moins deux générations. Il y avait des trous dans la couche d'ozone. Nos forêts disparaissaient. Nos terres arables exigeaient de plus en plus d'engrais et de pesticides pour produire moins de nourriture, mais plus toxique. Il y avait un taux de chômage effroyable, un système d'aide sociale surchargé, et les gens dans les quartiers déshérités bouillaient de frustration, de rage, de désespoir. Des écoliers se tiraient dessus pendant la récréation, des adolescents battaient des automobilistes sur les autoroutes, des adultes ouvraient le feu sur des étrangers dans les fast-foods.
On va maintenant vous parler de l'histoire du livre. Donc Clémentine, est-ce que tu peux nous raconter ce parcours de ce roman exceptionnel ?
Oui, je pense que c'est important de revenir sur l'histoire un peu de cette publication, puisque le livre est donc paru en 96, mais qu'il n'a pas tout de suite eu un écho, en tout cas pas comme aujourd'hui. Déjà, à la base, Jean Egland s'est heurtée à de nombreux refus de publier son manuscrit. On n'est pas étonné, mais c'est vrai qu'au regard de son succès, c'est un peu dommage. Donc en fait, elle a d'abord été éditée par un petit éditeur féministe, ouf,
yes,
qui s'appelle Calyx Books et qui a ensuite vendu les droits à un plus gros éditeur. Et ensuite, il a été publié à l'étranger, puis traduit dans une dizaine de langues au cours des années qui ont suivi. C'est vrai que c'est à la fois un carnet de bord, un roman survivaliste, un récit d'apprentissage écoféministe. Tout ça fait que le livre est peu à peu devenu un best-seller, et en fait il a même été adapté au cinéma aux États-Unis sous le titre Into the Forest par la réalisatrice canadienne Patricia Rosema. We need to stick together. What else are sisters for? Avec Ellen Page dans le rôle de Nell. Peut-être tu peux nous en dire un mot.
En fait, apparemment, c'est Ellen Page qui avait lu le livre et qui, du coup, voulait absolument qu'il y ait une adaptation cinématographique. Enfin, je crois qu'elle est un peu à l'initiative du truc. Et moi, je l'ai vu, le film, c'est une adaptation assez littérale du roman. Et du coup, le scénario, enfin, est super vu que c'est le roman. Et les actrices sont plutôt douées. Mais par contre, il y a quelques choix que je réprouve et des omissions, notamment d'une scène hyper importante du livre qui est, je sais pas si on peut le dire, mais une scène, enfin, on peut dire lesbienne et qui est complètement... Enfin, passer sous silence dans le film, et je trouve que c'est vraiment hyper regrettable, voire très problématique.
Comme d'habitude, quoi, en fait.
Oh, shit! Here we go again.
Et pour terminer, donc, il faut aussi rappeler que en France, en tout cas, le roman n'est paru qu'en 2017, donc ça fait vraiment pas longtemps, chez les éditions Gallmeister.
Oui, et on peut dire que le livre est d'une modernité et d'une actualité assez époustouflante 24 ans après sa publication initiale. En fait, il condense un peu tous les enjeux féministes et écologistes actuels, donc les dégâts causés par la surconsommation, la crise environnementale, les feux de forêt, la question des besoins matériels essentiels, des savoirs liés à la nature, de la santé mentale quand on est coupé du reste du monde, les vertus de la sororité, notamment pour survivre à la violence, etc., etc.
On écoute un autre extrait du roman.
Nous avons appris qu'il n'y avait plus d'eau à Los Angeles, que des hordes tentaient de rejoindre le nord à pied par la Central Valley frappée par la sécheresse. Nous avons appris que le comté à l'est de Redwood avait encore l'électricité et le tiers-monde se ralliait pour nous envoyer de l'aide. Et nous avons appris que la Chine et la Russie étaient en guerre, que les États-Unis avaient été oubliés. Malgré tout, chez la plupart des gens régnait une étrange impression de gaieté. Le même sentiment qu'Eva et moi éprouvions tous les 2 ou 3 ans, quand la rivière qui traverse Redwood débordait, nous savions qu'une crue était fâcheuse et provoquait des ravages. Pourtant, nous ne pouvions nous empêcher d'être saisis d'une étrange exaltation à l'idée que quelque chose hors de notre portée fût suffisamment puissant pour détruire l'inexorabilité de notre routine. Les anciennes règles avaient été temporairement suspendues, et c'était excitant d'imaginer les changements qui naîtraient inévitablement de ce bouleversement, de réfléchir à tout ce qu'on aurait appris et corrigé quand les choses repartiraient.
C'est vrai que ces derniers temps, on a relu ce roman, notamment en confinement, avec un peu de curiosité morbide, comme on s'était rué sur le film de Steven Soderbergh, Contagion, ou sur Panic Room de David Fincher.
Qu'est-ce qu'il fait ? Ils sont en train de nous séquestrer.
Avec un mélange d'identification, de fascination, de réconfort, en se disant que la crise qui est vécue par les deux sœurs est quand même autrement plus violente que celle qu'on a traversée, mais pas si éloignée non plus. Et je trouve que l'actualité du livre, c'est aussi qu'il inclut une pensée intersectionnelle et inclusive. Bon, même si les personnages sont blanches, mais en tout cas, ces questions-là sont quand même évoquées. Puisque dans la forêt, ça parle quand même de l'histoire coloniale et des massacres donc des Native Americans, donc des Indiens autochtones en Californie, qui ont été réduits en esclavage par les colons européens. Ça évoque notamment l'histoire de Sally Bell, qui était une jeune survivante d'une tribu amérindienne, qui a survécu toute seule dans la forêt au 19e siècle, à 10 ans, après avoir assisté à l'assassinat de ses proches et de sa petite sœur sous ses yeux. Et donc ça, c'est une histoire que le personnage de Nell découvre dans un livre. Voilà, ça permet vraiment de visibiliser cette trajectoire de femme qui était assez oubliée. Voilà.
C'est clair. Il paraît qu'elle s'est cachée dans un buisson avec le cœur de sa petite sœur.
Oui, détail atroce. Ouais. Peut-être on peut faire un petit point pour rappeler qui est Jean Egland pour les personnes qui ne la connaissent pas.
Oui, surtout que sa bio est intéressante. Donc on peut dire que le livre s'inspire en partie au moins de son environnement, parce que Jean Egland est une professeure de lettres de 63 ans qui vit elle-même en fait dans une forêt, enfin dans une maison, mais dans la forêt quand même. Donc c'est un peu la meuf du futur, sorcière et tout ce qu'on veut. Et donc elle habite en Californie du Nord, près de Redwood, là où se passe le roman. Elle a aussi dit en interview qu'elle avait déjà dormi au milieu des bois pour percevoir un peu tous les sons et toutes les sensations de la forêt pour être plus proche de ses personnages. Et quand elle n'écrit pas, elle est apicultrice. C'est aussi une anti-Trump et son livre a été relu en fait après son élection comme une critique assez évidente des États-Unis et plus généralement des modes de vie occidentaux. C'est son premier roman, mais avant ça, elle avait fait un livre en fait de non-fiction sur la maternité, que j'ai trop envie de lire, dans lequel elle parle de son expérience et des diverses croyances et pratiques culturelles autour de la grossesse.
J'aimerais que les 25 ans qui séparent le moment où j'ai commencé à penser à ce livre et aujourd'hui aient entraîné plus de gains. Je dirais qu'aujourd'hui, les États-Unis sont dans une période de recul et d'une certaine manière, j'ai envie de m'excuser pour ce que l'Amérique fait aujourd'hui. Mais je crois aussi qu'on est en train d'essayer de toutes nos forces de freiner le président actuel du pays.
Alors, qu'est-ce qu'on en pense, Clémentine ? On a une petite idée déjà.
Roulement de tambour. Bah, effectivement, c'est un livre donc qui a été beaucoup mentionné pendant la pandémie, un peu comme La Route de Cormac McCarthy. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce livre puisque c'est toi qui m'en as parlé. Mais effectivement, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'on en avait pas mal parlé récemment pour sa préscience, mais aussi pour les pistes que le livre donne pour se réinventer et pour ouvrir de nouveaux horizons. Et j'ai l'impression que avec Margaret Atwood ou quelqu'un comme la sorcière Starhawk, Jean Egland, c'est vraiment une des personnes qui a le mieux pensé le monde, en tout cas en amont de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a certaines phrases du livre qui résonnent vraiment avec ce qui se passe maintenant. Par exemple, on pensait que ça irait mieux à l'automne. On s'est dit genre, oulala, effectivement. Et je pense que en matière de sororité, enfin là, littéralement quoi, et d'entraide, franchement, on fait pas mieux quoi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Oui, bah pareil. Pour moi, c'est le meilleur roman pour penser l'après-pandémie, pour penser les limites de l'humain, le respect de la nature, et aussi tout ce qui est essentiel ou superficiel dans notre rapport aux autres et au monde. Ça fait réfléchir. Mais ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que l'autrice va prôner une vie d'ascète ou que le récit est moralisateur. À une scène où en fait Nell trouve un chocolat oublié dans la maison, elle a pas mangé de chocolat depuis des mois et on a l'impression, mais genre qu'elle a un orgasme. Enfin, elle exulte. Et pour moi, c'est vraiment plus un livre qui ouvre la réflexion de manière hyper intelligente. Cependant, on peut dire qu'il est assez violent dans ce qu'il décrit. Personnellement, je l'ai vraiment lu en retenant mon souffle à chaque page pour savoir ce qui allait arriver dans cette clairière. On est vraiment suspendu aussi à la description des vivres qui s'amenuisent, des bocaux de légumes qui se vident. Et il y a aussi toute la deuxième partie du livre qui va vers une communion totale avec la nature, même si elle est aussi pleine de dangers. Et en fait, c'est assez fou parce qu'on vit avec les sœurs chaque petite victoire avec une espèce d'émerveillement. Enfin, ça se lit presque parfois comme un thriller quand elles découvrent, genre, je sais pas, des fraises, je crois que c'était des fraises, ou quand elles découvrent comment faire de la farine avec des glands.
Oui.
Et Jean Egland parvient aussi à nouer des dilemmes cornéliens autour de choses en apparence hyper triviales. Par exemple, il reste un peu d'essence dans une bouteille, retrouvée comme par miracle. Alors, faut-il aller en ville pour en savoir plus sur les événements ou le mettre dans le générateur pour danser avec de la vraie musique pendant une heure ? Voilà, c'est assez passionnant comme comme récit.
Oui, évidemment, le risque inhérent à ce genre littéraire, bah, c'est qu'on s'ennuie, parce qu'en fait, il se passe pas grand-chose. Mais elle fait vraiment en sorte que les détails deviennent épiques, donc c'est vrai que ça devient assez haletant. Moi, je trouve qu'on ressort un peu hébété de ce journal intime qui s'englue de plus en plus dans un temps qui devient stagnant. Mais paradoxalement, ça a aussi un effet apaisant, puisqu'on se dit qu'on peut, qu'on pourra quand même survivre quoi qu'il arrive, même si c'est vraiment la merde, et qu'on a les ressources quoi, pour trouver des moyens.
Oui, c'est carrément ça. Il y a vraiment un message d'espoir qui reste au milieu de cette noirceur. Et le style est vraiment dépouillé. Je trouve que ça le rend accessible. Et c'est sublime parce qu'en fait, il y a énormément de violence, de douleur dans ce qu'elles vivent, qui est propre à la crise extrême qu'elles traversent et aussi à leur vulnérabilité face à la nature. Et en même temps, il y a un entêtement à vivre chez elles qui est vraiment bouleversant. Et c'est vraiment un livre intime et politique, comme le nom du podcast,
ouais.
Qui est très engagé, comme son autrice, en fait.
Moi, ça m'a un peu rappelé mes années scouts. Je trouve ça bien aussi de rappeler que l'autosuffisance et la vie dans les bois, ça peut être féminin. Enfin, c'est pas réservé qu'à Crocodile Dundee et à Robinson Crusoe.
Can I get an amen?
Et c'est vrai que tu parlais des bocaux tout à l'heure. Ça déclenche vraiment une espèce de to-do list dans la tête de tout ce que tu devrais préparer en mode survivaliste, genre de la farine, des bougies, des graines à planter et tout ça. Et ça donne pas mal envie de se mettre à la botanique. Et je trouve aussi que ce qu'elle dit de l'amour en général, en fait, d'ailleurs, qu'il soit filial, fraternel, sororal, érotique, et en fait, la manière dont tout ça va se mélanger quand les circonstances sont extraordinaires, c'est assez fou, enfin, sans trop spoiler.
Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et pour finir, je me suis souvenue en fait qu'à la fin du récit, Nell se pose la fameuse question de quel livre on emporte avec soi si tout vient à s'effondrer. Et je pense que Dans la forêt, c'est le genre de livre que moi, j'aurais envie de prendre dans mon sac en m'enfuyant.
C'est clair. Et alors, pour terminer cet épisode, on va faire des petites recommandations de lecture d'été, peut-être des choses qu'on a déjà lues ou des choses qu'on a envie d'emporter cet été, même si on n'a pas de vacances, c'est pas grave. Toi, qu'est-ce que tu lis d'habitude? Et qu'est-ce que tu as envie de lire cet été?
Ouais, même s'il n'y a pas de vacances, il y aura toujours les livres. J'aime bien lire en fait l'iranienne Zoya Pirzad. Donc, ça fait très snob de dire ça, mais en fait...
Je le connais pas du tout.
C'est hyper beau et accessible, c'est hyper poétique. C'est l'autrice de « C'est moi qui éteins les lumières » ou encore du recueil de nouvelles qui est un peu plus connu, « Le goût âpre des kakis ». Et en fait, elle raconte souvent des histoires familiales et d'amour, et elle peint surtout des personnages de femmes assez passionnants.
Listen, about being influenced with an author... Usually they ask me this question, and my answer is always like this, that listen, every writer has been influenced with all the books that he or she has read during his life, and most important, she has been influenced by life itself.
Et ça questionne les mécanismes du patriarcat, de la famille et tout ça, mais c'est très poétique, c'est vraiment impressionniste par petites touches. On parle beaucoup aussi de la nourriture iranienne, des jardins, enfin c'est vraiment très beau, très sensoriel.
OK.
Sinon, en saga familiale, en fait, je recommande L'art de perdre d'Alice Zeniter, que j'ai découvert seulement récemment, sur l'histoire donc d'une famille algérienne, notamment dans son parcours migratoire après la guerre d'Algérie. C'est assez exceptionnel.
Oui, on en a beaucoup entendu parler, effectivement.
Et d'ailleurs, il y a une interview dans La Poudre de Alice Zeniter autour du livre qu'on peut aller écouter aussi. Et dans les actualités, j'ai très envie de découvrir le nouveau Elena Ferrante, La vie mensongère des adultes, qui est prévu pour le 9 juin.
Parfait. Timing parfait.
Ding dong.
Et toi, Clémentine?
Alors moi, il y a une BD que j'ai déjà mis de côté. C'est la dernière BD de John McNaught qui s'appelle L'été à Kingdom Fields. C'est publié chez Dargo. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, John McNaught, c'est un dessinateur qui fait des miniatures très gracieuses. Moi, j'adore son travail. Je trouve que graphiquement, vraiment, c'est une merveille. Donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille de découvrir. Et sinon, en roman, j'ai aussi pris... Les femmes de Heart Spring Mountain de Robin MacArthur. Robin MacArthur, c'est une jeune autrice rurale du Vermont.
Dear Vermont, I'm fond of your quaint white villages and graceful rolling hills. Yes, but it's the other stuff that brought me back. your hippie cabins and rusted cars, your outhouses and hard luck Budweiser at 9 a.m. hillside farms.
Qui a écrit un recueil de nouvelles absolument magnifiques qui s'appelle Le cœur sauvage. Déjà, le titre est merveilleux. C'est un recueil que on peut offrir à tout le monde et que je recommande vraiment si vous ne la connaissez pas. C'est un des livres que j'ai préféré ces dernières années, donc j'espère que son roman est aussi bien. Et j'ai aussi mis de côté Normal People, donc c'est en anglais pour l'instant, c'est pas traduit, de Sally Rooney, puisque la série adaptée du roman vient d'être diffusée sur la BBC.
We hook up secretly. Like some kind of game.
Et en plus, on avait parlé de son deuxième livre, Conversation entre amis, dans le podcast, dans l'épisode sur la rentrée littéraire, il y a quelques mois. Sally Rooney, elle est irlandaise, et c'est une des voix, je trouve, enfin, je suis pas la seule à dire ça, les plus intéressantes en ce moment, et je trouve qu'il parle le mieux du monde contemporain, des rapports humains, et de toutes les ambiguïtés qui vont avec. Donc voilà, et pour la fin août, il y aura apparemment un livre de Maya Angelou qui va sortir aux éditions Notabilia, donc on sera là pour en parler.
Trop bien, ça fait pas mal de lectures avec en plus Dans la forêt.
Ouais. Oui, alors en tout cas c'est tout pour cette semaine, dites-nous si vous avez lu Dans la forêt ou si vous comptez le lire peut-être cet été. Vous pouvez retrouver toutes les références dont on parle dans le descriptif de l'épisode, vous pouvez également nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide à être référencés, et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long. Merci, salut Pauline.
Salut Clémentine.
Quoi de meuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo.
Avec Pauline Verdusier.
Mixé par Laurie Galgani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Montage et coordination Ashley Tola.